Merci beaucoup, Nathalie, pour cette invitation et cette présentation de l'exposition. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et encore davantage d'admiration pour à découvrir tout ce travail. C'est une exposition absolument splendide par, bien sûr, les objets exposés, les artistes convoqués, mais surtout par la problématique, cette confrontation donc, entre des œuvres et du passé qui, d'entrée de jeu, fait sauter le verrou des âges et ces cloisonnements dont vous avez parlé, qui ont pour effet, en général, d'étouffer les œuvres, parce que quand on parle des œuvres de l'art religieux du XIXe siècle, je ne suis pas sûr qu'on en ait une représentation très forte et que ça soit vraiment très attractif, tellement ce patrimoine est aujourd'hui un peu confiné, et difficile à exposer d'ailleurs, et peu fréquenté. Alors, précisément, cette manière d'appeler l'art en convoquant les artistes autant d'hier que d'aujourd'hui confirme cette définition fondamentale de l'art, que l'art est vivant. Voilà, et donc, vous en faites une démonstration absolument remarquable et je veux aussi tout particulièrement vous féliciter pour ce catalogue qui est une somme qui représente une somme de travail et une somme d'informations justement sur toutes ces définitions de l'art, ce rapport au sacré et aussi la contribution donc des artistes contemporains. Alors c'est un plaisir parce que c'est un de mes thèmes, évidemment je suis très sensible à cette relation entre l'art et le sacré. C'est quelque chose qui peut-être relève du pléonasme, à vrai dire, parce que la définition d'ailleurs d'Hervé Le Sieur permettait peut-être d'y penser. L'art a quelque chose de sacré, évidemment, parce que par la création artistique, on touche un monde autre, on touche une réalité qui est au-delà de notre perception initiale, immédiate. Et donc, l'art va nous emmener, va nous conduire d'une façon, vous l'avez cité dans le catalogue, en reprenant les paroles de ce grand moine du Moyen-Âge, Suger, qui construit donc Saint-Denis et qui va lancer l'aventure gothique, qui nous conduit, dit-il, de façon anagogique. Voilà, c'est-à-dire, le mot est un peu compliqué, mais il veut dire qu'on va aller du bas vers le haut. Avec ce préfixe « ana », qu'on retrouve dans beaucoup de mots français, bien sûr, mais on n'a pas l'habitude d'utiliser le mot « anagogique ». On le retrouve aussi dans « anaphore », qui est un des mots de l'Eucharistie, de la messe. Et donc, il s'agit effectivement d'aller depuis les réalités matérielles vers des réalités immatérielles. Il y a un mot commun entre les deux, c'est « réalité », mais évidemment, le statut de la réalité matérielle est assez facile à définir, parce que là, nous pouvons toucher, nous pouvons voir, sentir, mesurer, peser, etc., cette réalité matérielle. Mais évidemment, la réalité immatérielle est beaucoup plus difficile à approcher. Elle est beaucoup plus au-delà du sensible, évidemment. Les philosophes de l'Antiquité parlaient justement de cette relation entre le sensible, les sens et ce qu'ils appelaient l'intelligible, une manière de parler comme Hervé Le Sieur le dit. Sa dernière phrase est tout à fait remarquable. Il le dit très bien, je ne fais que répéter finalement, ou encore, dit-il, tout ce qui peut introduire le sentiment d'un au-delà du réel, un au-delà du réel, un au-delà du contingent, un au-delà du quotidien prosaïque, un au-delà. Alors dès qu'on dit le mot au-delà, évidemment, on est dans cette tension vers un monde qui n'est pas tout à fait celui que nous connaissons ici, mais celui que nous désirons sans doute, et qui demande quand même un effort pour l'atteindre, alors que ce soit un effort religieux, bien sûr, un effort de conversion personnelle, de perfection morale, de perfection intérieure, ou que ce soit, et c'est ce qui va nous intéresser ici, un effort de création artistique, puisque l'art, par définition, transforme une première réalité matérielle en une deuxième réalité immatérielle. C'est-à-dire que quand on regarde une œuvre d'art, on voit toujours beaucoup plus que la réalité matérielle. Évidemment, on a bien sûr des émotions, vous l'avez d'ailleurs très habilement exprimé dans le titre, avec ce petit « e » qui transforme le motif en émotion. Les émotions, c'est une première expérience de cet au-delà, mais souvent aussi, peut-être encore plus loin, du côté de la vision, du côté d'une perception, donc de ce monde un peu mystérieux qui néanmoins va être reçu et dont nous allons être témoins. Alors vraiment, c'est un grand bonheur de voir cette exposition. J'ai eu la chance d'être au vernissage samedi dernier et donc d'écouter Monsieur le maire de Tourcoing qui en a parlé d'une façon tout à fait remarquable, insistant justement beaucoup sur l'importance de la culture, bien sûr. Bon, ça c'est un projet, je pense, de longue date à Tourcoing, mais une culture finalement, comme il l'a dit ici, il a tout dit, Monsieur Hervé Le Sieur, j'aimerais bien le connaître davantage, quand il dit qu'il n'y a pas de culture sans sacré. Voilà. Alors il faut installer aujourd'hui, dans une société laïque, bien sûr, bon, il y a encore des phénomènes religieux. Saint-Christophe est très présent au centre de Tourcoing, bien sûr, mais peut-être que la majorité maintenant n'est plus tout à fait aussi sensible à cette démarche religieuse. J'ai vu dans le catalogue des magnifiques photos de processions qui occupaient toute la place devant Saint-Christophe. Bon, c'est peut-être moins d'actualité aujourd'hui. Et donc, il faut aujourd'hui inventer, vraiment, et c'est une exigence, réinventer cette dimension du sacré dans l'espace social, dans l'espace politique, dans l'espace profane. C'est une gageure, évidemment, parce que le sacré, par définition, voudrait se distinguer du profane. Sacré, ça veut dire coupé, séparé. Et dans les religions archaïques, on a une séparation du sacré. Si vous avez un temple grec devant les yeux, eh bien, normalement, dans le temple grec, comme dans le temple de Jérusalem, le laïc, le peuple, ne rentre pas dans l'espace sacré. L'espace sacré est réservé aux grands prêtres, donc à toute une hiérarchie. Mais ici, on a une autre conception du sacré, qui est peut-être d'ailleurs influencée pour une part par le christianisme et par l'histoire du christianisme, qui est que précisément, comme vous l'avez dit, la séparation entre le profane et le sacré va être transgressée, va être franchie. Et le but, c'est de permettre au profane, au peuple, de pénétrer dans l'espace du sacré et d'habiter l'espace du sacré à part entière. Donc on n'en est plus évidemment à une époque où l'espace du sacré serait réservé à une petite élite qui aurait donc le privilège de pouvoir en goûter. Non, l'espace sacré aujourd'hui est ouvert, doit être ouvert à tout le monde. Profane, vous savez tous le sens du mot profane, ça veut dire devant le temple, profanum. Donc, on était pendant très longtemps devant l'espace sacré. Aujourd'hui, grâce à des politiques de culture, grâce à tout votre engagement, nous pouvons rentrer un peu plus loin dans l'espace sacré. Et les artistes, évidemment, sont des médiateurs extraordinaires parce que les artistes ne sont pas connotés religieusement d'entrée de jeu. Bien sûr qu'ils sont animés par des spiritualités, qu'ils sont animés par la foi, par des conceptions qui sont éminemment mystiques. Mais il n'y a pas de connotation d'appartenance religieuse d'entrée de jeu. L'art est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus, d'une certaine manière, démocratique, puisqu'il ne nécessite pas une initiation qui mettrait à part les gens qui auraient le goût de l'art. Évidemment, l'art s'adresse à tout le monde et l'art est un puissant facteur d'accès à ce monde du sacré. Et donc, cette exposition réussit une double performance qui est, d'une part, de mettre en relation les œuvres du passé et les œuvres d'aujourd'hui et de montrer, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de rupture dans la mesure où il n'y aurait pas une époque qui aurait eu accès au sacré, et puis nous, aujourd'hui, dans la modernité, nous serions privés de cette dimension du sacré. Non, il y a une continuité, ce qui ne va pas sans différence, néanmoins. Ce n'est pas une pure reproduction du passé. C'est là tout l'intérêt de l'exposition, de voir comment chaque génération invente son rapport au sacré, comment chaque génération crée par des formes qui vont exprimer ce désir, comme le dit Hervé Le Sieur, ce désir de l'au-delà du réel, ce désir de l'au-delà du contingent, ce désir de l'au-delà du quotidien prosaïque. Et donc, il y a une continuité, et c'est ça qui est remarquable, mais en même temps, une différence qui fait que l'art d'aujourd'hui, évidemment, s'inspire peut-être, reprend des formes anciennes, mais invente. Mais là encore, ce n'est qu'un pléonasme, parce qu'un art qui n'invente pas, ce n'est plus un art. Donc, l'artiste est sommé d'inventer, de créer. Alors ça, c'est la première performance qui est assez pratiquée aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'exemples. Je pense que le musée de Lille, le Palais des Beaux-Arts à Lille, a montré ça déjà dans de nombreuses expositions. Et il faut reconnaître que chaque fois qu'on a cette confrontation entre les artistes d'hier et les artistes d'aujourd'hui, eh bien, c'est un vrai bonheur. La deuxième performance, je viens de l'expliquer, c'est de réactiver le mot sacré. Il faut une certaine audace, à vrai dire, pour parler du sacré aujourd'hui, tant dans nos catégories, on a l'impression que le sacré est réservé aux religieux. Donc là, vous sortez complètement le sacré de son contexte de religiosité, de religieux, d'appartenance à une religion, pour évidemment l'installer au milieu de l'espace public, de l'espace de la ville, et réactiver donc cette relation entre la culture et le sacré. Il n'y a pas de culture sans sacré. J'aurais envie de lui suggérer aussi qu'il n'y a pas de sacré sans culture. Ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une culture a besoin d'être tirée vers le haut, d'être aspirée par des valeurs supérieures, par un désir de cette vision de l'au-delà. Et en même temps, attention, quand on est dans cette perspective grandiose de l'attirance vers l'au-delà, il ne faut pas oublier l'appartenance à un monde d'ici-bas, l'appartenance à une culture, et donc ne pas transformer, évidemment, ces œuvres qui vont déjà exprimer quelque chose de grandiose de l'ordre du sacré, ne pas transformer ça en secte, ne pas transformer ça en monde à part. C'est un peu le paradoxe. Évidemment, dès qu'on atteint le sacré, la première réaction générale du sacré, c'est de créer une clôture autour de lui et de se protéger. Et il faut rester donc dans cette ouverture complète, dans cette profanation peut-être, pour utiliser un mot qui est violent, mais qui exprime bien ce rapport entre le sacré et le profane, entre donc la matérialité et l'immatérialité. Alors, les artistes que vous avez, qui ont eu la chance de vous rejoindre, sont vraiment dans cette dynamique. Et ils le disent eux-mêmes. Lydia Palais, que j'ai la chance de rencontrer, exprime ça parfaitement dans ses expressions. Il s'agit d'appréhender l'invisible. Voilà une autre façon de parler de l'immatérialité. En général, quand on est dans le domaine du sacré, on utilise des mots par négation, parce que la voie négative est peut-être plus heureuse pour exprimer ce mystère que la voie positive. Parce que qu'est-ce que c'est que l'invisible? Qu'est-ce que c'est que l'immatérialité? Qu'est-ce que c'est que ce monde de l'au-delà? Évidemment, personne ne peut en donner une définition stricte et limitée. Et donc, on va souvent utiliser des termes négatifs, mais ces termes négatifs ne sont que, finalement, le signe de l'ouverture des thèmes positifs. Et c'est tout à fait intéressant aujourd'hui, dans notre société extrêmement positiviste, extrêmement concrète, qui veut toujours que les images correspondent à la réalité. Je cite par exemple la publicité. Évidemment, si vous faites une publicité de voiture, la publicité doit ramener à la voiture d'ici-bas. Alors, c'est une vision de l'image un peu réductrice. Si la publicité vous attire dans le monde de l'au-delà, il y a peu de chances qu'on achète la voiture d'ici-bas. Donc, ça ne fait pas les affaires des publicitaires. Et donc, il faut évidemment avoir cette approche exigeante de l'art et de l'image qui, par la négation de quelque chose qui est perceptible dans un premier temps, nous permet d'accéder à cette autre réalité. Et donc, Lydia Palais parle d'invisibilité. Ça renvoie évidemment à ce que dit Paul Klee dans ses ouvrages d'une façon constante à ce qu'a dit Vladimir Kandinsky, qui, dans les débuts du XXe, en 1910, va exprimer cette définition fondamentale de l'art contemporain, de l'art d'aujourd'hui, du spirituel dans l'art, du spirituel dans l'art. Et là, c'est un autre terme encore que sacré, la spiritualité, le spirituel, l'esprit. Mais l'esprit, évidemment, c'est pas plus clair que l'invisibilité. L'esprit souffle où il veut. Qu'est-ce que c'est que l'esprit ? C'est une réalité, évidemment, insaisissable et qui va nous entraîner dans une critique très forte de tout ce que nous pouvons percevoir d'une façon trop concrète. Et bien sûr que ça renvoie à la définition la plus ancienne de l'icône. C'est des termes que vous utilisez, que les artistes utilisent en permanence. L'icône, un peu différente peut-être de l'icône de l'ordinateur, mais disons que cette icône, cette vraie image, vous donnez d'ailleurs la définition de l'icône avec Véronique, la vera iconica, la vraie image. Et qu'est-ce que c'est que cette vraie image ? Qu'est-ce qu'on va montrer ? Et on va montrer quelque chose qu'on ne voit pas spontanément, qu'on ne voit pas naturellement. C'est là où les artistes sont géniaux, qu'ils sont précieux, irremplaçables, parce que les artistes nous font voir quelque chose d'absolument inédit. Si les artistes nous faisaient voir ce qu'on voit d'habitude, on n'aurait pas besoin d'eux, et évidemment, ils seraient sans doute à la solde de quelques objectifs plus commerciaux. Mais là, il s'agit vraiment de nous révéler, et encore là, voilà, le langage, tout le langage du sacré va être utilisé, de nous révéler quelque chose que, précisément, nous n'avons pas l'habitude de voir. Et donc, ici, cette œuvre Entité 07, rouge ostentatoire. Alors, j'ai compris que le rouge du cadre était nécessaire à l'œuvre, parce que précisément il y a toute une tension entre ce rouge qui pourrait faire écran, comme toutes les couleurs d'ailleurs. Toutes les couleurs font écran. Le mot couleur d'ailleurs veut dire cacher, revêtir quelque chose pour lui donner une certaine consistance, mais empêcher malgré tout la lumière blanche de passer. Alors on a ce rouge, mais en même temps voilà qu'apparaît, grâce à un jeu extrêmement subtil dû à la photographie, un jeu de lignes, photographie ordinateur, bien sûr, un jeu de lignes, et ces lignes sont particulièrement poreuses. C'est une sorte de filet qui laisse passer évidemment plus de vide que de plein. Et voilà que tout d'un coup, une forme est suggérée, et que peut-être un corps apparaît. Mais il apparaît évidemment plutôt dans son absence. Il apparaît dans cette luminosité particulièrement blanche ici, qui est toujours le signe que l'on est juste à la frontière entre l'obscurité et la lumière. Vous avez d'ailleurs cette très belle phrase, c'est vous, Nathalie. L'obscurité devant la matrice de corps céleste surgissant du néant, à la fois proche et pourtant irréel. Alors, c'est vrai que le mot irréel, je dirais plutôt immatériel, mais parce qu'il y a quand même une réalité de perception. Donc voilà, peut-être une chasuble, peut-être un vêtement de cérémonie avec ses manches très amples et qui évoque, et c'est tout à fait dans l'esprit de l'art d'aujourd'hui, qui évoque une présence, mais qui va l'évoquer en combinant cette présence avec une absence. Vous allez dire, je joue sur les mots, c'est peut-être un peu facile de pratiquer l'oxymore comme ça et de conjuguer les contraires. Mais précisément, tout est dans cet art des contraires. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'une société positiviste qui avait du mal à intégrer cette part négative qui permet peut-être d'appréhender mieux le mystère que la positivité. Il faut aussi nous habituer à considérer que la présence ne va pas sans une absence. Et que vouloir définir un être uniquement par ce qu'on voit, par les caractères les plus objectifs de son identité, c'est sans doute trop court, parce qu'il y a toute une part de mystère dans l'être humain, une part qui l'entoure. On pourrait peut-être parler d'aura, une sorte d'existence
lumineuse, un peu, vous savez, quand on regarde une étoile, alors il y a la masse de l'étoile, et puis tout autour, il y a une sorte de lumière très diffuse qui correspond à son rayonnement et qu'on ne pourrait sans doute pas appréhender, qu'on ne pourrait pas enfermer, que pèse la lumière, comment contraindre cette lumière, quelles sont les limites de la lumière, tout ça est très compliqué. Et donc, il y a, tout comme autour du corps, une aura, une luminosité qui rappelle, évidemment, dans l'art traditionnel, l'art du Moyen-Âge, toute cette manière d'ajouter au corps humain une auréole, d'ajouter un nimbe, d'ajouter une mandorle qui va créer autour du corps un espace de lumière. Et alors là, c'est ce qui est très subtil, c'est que les traits qui donc normalement sont appréhendables, puisque le trait est censé être quelque chose d'objectif, eh bien ici, le trait est lumineux. Et d'une certaine manière, il y a un contraste entre le fond noir qui semble totalement opaque et cette révélation de ce corps, mais un corps de lumière, un corps complètement lumineux qui se dégage de l'obscurité. Donc l'obscurité qui se transforme en lumière par la magie d'un dessin, par la magie d'une conception photographique tout à fait subtile. On pourrait parler peut-être de virtualité, on parle beaucoup aujourd'hui d'objets virtuels. Et donc, cette première réalisation que vous avez choisie d'une façon un peu emblématique pour l'ensemble de l'exposition, eh bien, pour moi, témoigne parfaitement de ce que la tradition, les traditions religieuses les plus anciennes, veulent exprimer en parlant d'un corps glorieux, un corps de lumière. Peut-être, j'avoue, je suis chrétien évidemment, donc je m'intéresse ici à cette reformulation tout à fait intéressante d'une résurrection, d'un corps de ressuscité, c'est-à-dire un corps qui a franchi les limites de son opacité, de sa corporéité, pour atteindre ce degré beaucoup plus subtil, ce degré d'existence que l'on souhaiterait être mieux reconnu, ce degré donc de lumière. Et voilà, je trouve qu'il y a dans cette image une transgression extraordinaire de toutes les opacités, de toutes les lourdeurs, de tous les côtés un peu charnels, mais beaucoup trop pesants. Et tout est transformé ici en légèreté, l'insoutenable légèreté de l'être, dit Kundera. C'est évidemment une extraordinaire aventure. Alors, on pourrait donc d'entrée de jeu appréhender l'invisible pour le rendre visible. Voilà, l'artiste, mais à vrai dire, tous les artistes, quand ils expriment un peu d'une façon juste sur à propos de leur création, vont jouer sur ces contradictions, vont jouer sur ce langage qui, dans le temps, encore aujourd'hui, mais enfin, de façon moins majoritaire, était religieux et qui, aujourd'hui, devient finalement un langage assez commun, enfin, du moins, pour les artistes et tous ceux qui ont une sensibilité artistique. Donc, on pourrait faire allusion ici, par exemple, à tout le travail des ténébristes, ce qu'on appelle les ténébristes dans l'histoire de l'art, qui travaillent avec l'obscurité, hein, qui travaillent avec l'obscurité et qui font surgir de cette obscurité, la tour, Velázquez, etc., qui font surgir de cette obscurité un corps de lumière. Et on pourrait aujourd'hui aussi rapprocher cette création des œuvres de Soulages, dont on dit, quand on a vu ces tableaux outre-noir, quelle luminosité. C'est tout à fait étonnant, mais ça, c'est écrit dans tous les commentaires de ceux qui ont vu les expositions, parce qu'évidemment, il y a tout un art de saisir par des reliefs, par des lignes, par un grattage, etc., d'accrocher cette fameuse lumière. D'où vient la lumière ? Ah, est-ce qu'elle vient du tableau ? Est-ce qu'elle vient d'ailleurs ? Ça, c'est un mystère. En tout cas, toujours est-il qu'elle nous est donnée ici, d'une façon claire, d'une façon tout à fait enthousiasmante. Et donc, voilà, cette image ici nous révèle très clairement un état du corps humain, un état du corps humain qui a franchi évidemment quelques évidences, qui a franchi quelques définitions trop matérialistes et qui atteint un degré peut-être d'apesanteur, un degré de légèreté qui fait que nous contemplons peut-être ici, ou en tout cas nous sommes en relation, en communion avec une sorte de célébration. Puisque j'ai parlé de chasuble, voilà, ça renvoie évidemment à une célébration d'une présence de cette lumière. Alors, Lydia Palais travaille beaucoup ce genre d'image ici avec un retable manga, donc il faudrait bien considérer qu'il y a d'abord une fermeture, l'image supérieure, et puis des deux volets vont s'ouvrir, et à ce moment-là va apparaître un jeu de lignes lumineuses qui, par effet de symétrie, mais ça c'est un travail de recomposition, par effet de symétrie, va évoquer effectivement peut-être un masque dans la partie inférieure, une sorte de corps humain. Il parle de manga, et le manga c'est des créatures un peu ambiguës, célestes et infernales en même temps, des anges et des démons, hein. C'est des sortes de gnomes qui peuvent parfois créer quelques angoisses, mais qui peuvent aussi parfois, dans les livres d'enfants aujourd'hui, on a beaucoup de gnomes comme ça qui se baladent à peu près dans toutes les pages et qui vont finalement créer une sorte d'excitation de l'imaginaire. Et voilà donc ce personnage qui surgit comme ça du néant, qui surgit de je ne sais pas d'où. Évidemment, il y a la magie de la technique, de l'art photographique, de l'art des lumières, et puis de cette façon de saisir ces fameuses lignes qu'on voit parfois, mais d'une façon beaucoup plus banale, évoluer de façon aléatoire, comme on dit, sur des écrans, les fonds d'écran qui permettent et qui vont jouer grâce à un logiciel qui vont jouer sur des formes. Mais évidemment, sur notre ordinateur, on a des choses un peu frustes. Ici, on a une construction très, très importante, en particulier par la symétrie. La symétrie permet tout de suite de structurer l'image et peut-être de lui donner un axe, de lui donner comme une sorte de structure qui rassure, bien sûr, parce que ce n'est pas n'importe quoi. On dit parfois ça, hein, de l'art contemporain, c'est n'importe quoi, moi-même je pourrais le faire, etc. Pas sûr que ce soit n'importe quoi, c'est pas sûr que vous réussissiez du premier coup à faire ça comme ça, en faisant effectivement comme ça du premier jet. Non, ça représente un gros travail de maîtrise de ces lignes qui pourraient évidemment être totalement aléatoires et totalement libres, mais qui sont ici structurés pour essayer de suggérer, pour suggérer toujours cette présence autre, cette présence au-delà de la matière, au-delà du visible. Alors, je ne sais pas si Lydia Palais est là, mais enfin, j'ai beaucoup d'estime pour elle et je sais que j'avais entamé un dialogue avec elle et il faudrait le poursuivre. Comment ? Voilà, bonjour. Et donc, félicitations pour ce grand travail qui, moi, me plaît vraiment infiniment. Et alors, bon, il faudrait qu'on poursuive après sur cette définition de l'image et le rapport avec le miroir. Et qu'est-ce que c'est qu'une image ? Voilà, une image doit saisir quelque chose que, précisément, on ne voit pas. Et il y a une utilisation du miroir qui est tout à fait savante, et qui est le miroir platonicien, qui permet de capter, en sortant un peu le miroir de la caverne, ou comme les soldats dans la guerre de 14 sortaient le miroir au bout de leur fusil avec baïonnette pour essayer de voir l'ennemi sans être vu. Donc ce miroir, vous voyez, ce n'est pas du tout un miroir narcissique, ce n'est pas le miroir de la reine que l'on a tous les matins devant les yeux, miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle, bon, non, ou le plus beau, pardon, enfin, ça vaut pour les hommes et pour les femmes, bien sûr. Non, ce n'est pas ce miroir narcissique qui renvoierait que ma propre image, encore que déjà ma propre image est un mystère total, puisque je ne me vois pas, justement, et que je ne peux pas me voir autrement que par ce miroir. Donc, il y a là tout un complexe très grand, mais ici, il s'agit vraiment d'une image, une image qui va capter par des antennes, par le génie de l'artiste, qui va capter donc une réalité invisible. Alors, vous avez eu le bonheur d'exposer le rocher du cardinal, qui est, voilà, donc vous cherchez, si j'ai bien compris, l'image qui permettrait de voir s'il l'a jamais porté un jour, mais ça serait intéressant, pourtant on en a beaucoup. Et donc, voilà, un petit détail ici de cette broderie. Alors, on pourrait faire un rapport, évidemment, entre le travail des brodeuses, le travail de la broderie et le travail de Lydia Palais, conduire ces fils de lumière. Alors, dans la broderie, c'est parfois des fils d'or, des fils dorés, etc., des fils argentés. Ça relève un peu de cette même volonté de tracer par un travail donc méthodique, un travail artisanal précis, de tracer les linéaments de cette réalité autre. Et donc, voilà les personnages qui apparaissent à gauche comme ceux qui sont suggérés à droite. Alors, la deuxième la deuxième inspiration que l'exposition a suscité en moi, ce sont les travaux d'Erika Vori autour du masque. Alors, c'est plus petit dans l'exposition. Les photos sont toujours un peu trompeuses parce qu'on vous expose parfois en très grand quelque chose qui, dans la réalité, est très petit, ou parfois en petit, quelque chose qui, dans la réalité, est très grand. Donc, tout est faux, évidemment, de ce que je vous montre. Les couleurs, les tailles et le rendu aussi, parce que c'est des fois en trois dimensions. Donc, mais on travaille comme on peut. J'ai travaillé comme ça toute ma vie avec des photos qui étaient d'une qualité moyenne. Mais bon, ça permet quand même d'avancer un peu dans la perception de cette réalité autre. Et donc le masque qui ici est particulièrement bien rendu avec ces deux ouvertures donc pour les yeux. Il y a effectivement une référence au corps humain qui va être derrière, et les yeux vont permettre peut-être de faire le lien entre cette apparence du masque et puis le personnage qui est derrière. Alors le masque, c'est aussi un élément fondamental des démarches religieuses les plus traditionnel, parce qu'il importe que l'être qui va célébrer ou l'être qui va parler de ces choses de l'au-delà ne montre pas forcément sa réalité première immédiate. Tout un quidam a peu de crédit en tant que tel. Et il faut donc qu'il s'habille, bien sûr, qu'il revête un certain nombre d'atours pour le distinguer, puis des rites qui vont aussi, d'une façon un peu répétitive, distinguer certaines opérations du quotidien. Et puis ce fameux masque que l'on met sur le visage et qui permet de faire apparaître un autre visage. Alors le masque, dans la tradition occidentale, a une très, très grande importance. Je ne connais pas assez les traditions orientales, mais ça vient évidemment du monde grec, de la tragédie grecque. Et le mot utilisé pour parler de ce personnage, ce n'est pas simplement l'objet du masque, mais le personnage portant un masque, c'est un mot qui, en grec, va finalement devenir ce que nous appelons une personne, prosopone, la personne. Et donc, voilà que ce concept de personne, qui a été fabriqué pour une grande part au cours des 3e, 4e, 5e siècles de notre ère par les grandes discussions théologiques, on va chercher ce mot persona. Donc, la persona, dans un premier temps, c'est l'acteur. C'est l'acteur de théâtre qui, bien sûr, exprime une dualité, l'acteur et son double. Antonin Artaud a très bien exprimé ça. C'est-à-dire que, évidemment, un acteur va jouer un rôle. Qui est l'acteur ? Et bien sûr que l'acteur qui joue le rôle d'un criminel n'est pas un criminel dans la réalité. Mais néanmoins, il va apparaître comme un criminel et sera peut-être plus vrai qu'un criminel qui serait condamné au tribunal d'à côté. Donc il y a cette dualité tout à fait étonnante dans le concept de personne qui indique bien justement cette profondeur de champ qu'il faut installer entre l'être dans sa réalité normal, on pourrait dire, et puis l'être dans son jeu sacré, dans son jeu liturgique, dans son jeu théâtral, et qui, à ce moment-là, va incarner une réalité supérieure, une réalité autre. Et il ne faut pas oublier que nous sommes tous constitués de cette dualité. Et donc, il y a évidemment notre identité corporelle, mais le mot personne ne doit pas être traduit par individu. Ça serait une réduction, évidemment, trop grande, car le mot personne n'est pas, la personne n'est pas uniquement définie par sa carte d'identité, par ses caractères extérieurs. Il y a un mystère dans l'être qui fait que l'on voit une part de ce qu'il est, mais qu'il y a une autre part qu'on ne voit pas. Soit qu'il la dissimule, soit qu'il la masque, soit au contraire qu'il la montre de cette façon. Et donc il faut introduire, et l'idée du masque est très précieuse ici, il faut introduire cette dualité, c'est assez subtil, entre quelqu'un qui va être l'acteur, mais qui va apparaître, grâce à des costumes et surtout grâce à ce masque. Aujourd'hui, c'est moins utilisé dans les pièces de théâtre, encore que il y a toujours un apprêtement important de l'acteur pour qu'il apparaisse justement dans son rôle et que ce rôle devient effectivement le message important. Donc, il y a un travail d'Erika Vory tout à fait étonnant sur ce travail du masque qui, est, bien sûr, fait allusion à les grandes réalisations africaines que nous découvrons avec bonheur dans le musée des arts premiers. C'est l'occasion d'évoquer la mémoire de Jacques Chirac, qui était absolument fanatisé par ce genre de réalisation. Et donc, aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup, même si on en a, à vrai dire, pas tellement d'usage, sinon pendant des périodes de carnaval, sinon peut-être avec les enfants aussi qui adorent jouer avec des masques, et qui adorent effectivement ce théâtre de marionnettes ou tous ces théâtres qui permettent justement à des enfants de se mettre en scène d'une façon tellement différente de ce qu'ils sont, à vrai dire, dans le quotidien. Donc un travail très, très raffiné, ce sont avec de l'or, bien sûr que le matériau de l'or va contribuer à la sacralité de la chose parce que moi je ne suis pas en or, mais le masque que je mets sur mon visage est doré. Et du coup, il y a une sorte d'aura, effectivement, c'est le même mot d'ailleurs, l'aura et aurum, l'or, c'est la même origine, qui va à ce moment-là rayonner, alors que j'en suis évidemment physiquement bien incapable. Peut-être que j'aurais dû venir faire cette conférence avec un masque, j'aurais eu sans doute plus d'autorité et plus d'influence et vous auriez été beaucoup plus envoûté que ma seule présence trop banale. Voilà, donc ces masques, on n'ose pas les porter tellement ils transforment évidemment l'être, tellement ils lui donnent une dimension de quasi irréel, évidemment. Alors la voix est encore là, bien sûr, encore qu'elle est un peu déformée par l'écran du masque, et puis les yeux qui vont peut-être s'animer parce que ces trous laissent voir quand même la pupille. Alors il y a tout un travail de dessin, enfin tout un des lignes, des rinceaux, des dessins géométriques qui là encore transforment complètement notre visage initial en une icône, une véritable icône, l'icône du visage, le visage donc d'un être de l'au-delà, peut-être un être céleste, un être qui parfois combine des réalités animales avec des réalités humaines ou qui combine des réalités humaines avec des réalités un peu de science-fiction. Voilà, j'étais récemment au Futuroscope de Poitiers, j'étais très, très étonné par le nombre de manifestations de cette science-fiction qui nous met en scène des êtres assez peu, enfin, qui sont un peu humanoïdes sur les côtés, sur les bords, mais qui, finalement, nous transportent dans un monde assez curieux. J'étais pas toujours de plein pied avec ce monde, mais visiblement les enfants, eux, habitent plus facilement cet univers. Voilà. Alors il y a tout le travail de répétition des petites pour la chevelure, par exemple, ces lignes très géométriques. Alors le passage par la géométrie est évidemment une des conditions de ce qu'on appelle l'abstraction, bien sûr. Parce que tout ça, en fait, j'ai parlé du rapport au religieux, rapport au sacré, mais c'est la même définition pour l'art. Il s'agit toujours de passer d'une première réalité à une deuxième réalité. C'est ça l'abstraction. L'abstraction, c'est de tirer, voilà, on va tirer d'un élément initial, de la pierre, de la boue, de la terre, des couleurs, etc. On va tirer, ou bien d'éléments plus informatiques, on va tirer de ces éléments une autre réalité. Et l'abstraction est une aventure fascinante parce que, effectivement, quand elle est réussie, grâce au génie des artistes, eh bien, on est subjugué et on est face à quelque chose, encore une fois, de totalement inédit, de totalement imprévu, de totalement imprévisible. Alors voilà encore ces autres masques, on pourrait les regarder tous les uns après les autres. Ils sont tout à fait extraordinaires d'inventivité et en même temps de tradition, la tradition des masques la plus ancienne, voilà, la plus traditionnelle. Alors là, peut-être un visage un peu plus animal, peut-être, avec une sorte de mufle qui, évidemment, On retrouve ça chez Picasso aussi. Il y a beaucoup de masques chez Picasso. Quand le taureau apparaît, évidemment, c'est toute une histoire de masques. Voilà, merveilleux travail, très, très méticuleux, très fin, d'Erika Vori, qui apparaît dans une vitrine. Alors, il y a un autre travail qui, alors, m'a aussi complètement fasciné, le travail de Sophie Langor, qui travaille les visages. Et donc, effectivement, elle parle, elle aussi, du corps qui doit être le signe d'une intériorité, le signe d'un mystère. Et donc, elle travaille sur le thème de la face. La face. Alors, face. Évidemment, chez Picasso, on a de face et de profil, par exemple, les deux en même temps. C'est intéressant, justement, parce que on veut montrer une tension entre deux réalités que nous, normalement, nous distinguons et nous opposons. C'est soit de face, soit de profil. Avec les artistes, c'est jamais « ou », c'est toujours « et ». Parce qu'on va combiner deux choses absolument improbables dans leur rencontre. Et donc, cette face, c'est la partie visible, bien sûr, mais cette partie visible est censée, puisqu'on est dans une démarche artistique sacrée, elle est censée révéler une intériorité. Alors, le génie ici de Sophie Langor est de mettre en relation des visages de statues saint-sulpiciennes qu'elle va chercher à Liège dans le musée du Grand Curtius, où ils ont une tonne de statues saint-sulpiciennes, mais on en a, nous aussi, à foison, dans encore nombre d'églises, des statues saint-sulpiciennes qui n'ont pas tellement la cote aujourd'hui parce qu'elles sont souvent un peu en plâtre, elles sont un peu répétitives, elles n'ont pas toujours bénéficié d'un travail de création très intense. Mais pourtant, et c'est ça le coup de poker de cette confrontation entre le visage de la statue saint-sulpicienne et à droite, je crois, le visage de Marion Cotillard. Il y a tout un travail, évidemment, de retouche, de, non pas de la statue saint-sulpicienne, encore qu'il y a toute une photo de la statue saint-sulpicienne qui certainement n'est pas tout à fait comme ça dans la réalité, parce qu'il faut vraiment la prêter pour qu'elle apparaisse à gauche de cette façon assez lumineuse, avec une sorte de carnation très tendre et très, très soyeuse. Mais évidemment, il y a un gros travail sur le visage de Marion Cotillard qui est retouché, évidemment, par la photographie pour correspondre effectivement au visage de la statue saint-sulpicienne. Quelle confrontation tout à fait inattendue entre une statue saint-sulpicienne que, d'entre-jeu, je n'aurais pas tellement envie de regarder, encore moins de mettre dans un musée pour le moment, et puis Marion Cotillard, qui par contre me plaît beaucoup et que j'aime bien regarder. Mais voilà que les deux me renvoient finalement de l'une à l'autre. Alors il se passe un phénomène ici, qui est qu'après tout, tiens, la statue saint-sulpicienne est peut-être plus intéressante que je ne l'avais pensé au premier regard. Et peut-être que Marion Cotillard a quelque chose de... alors, pas de saint-sulpicien, je ne veux pas lui faire une injure à ce point-là, mais peut-être quelque chose de sacré, de religieux qui l'anime. Alors, bien sûr que le travail de la peau, bien sûr, l'inclinaison de la tête, les yeux mi-clos, parce qu'il s'agit de regarder cette réalité autre un peu d'une façon mystérieuse. Donc voilà, le regard vers le bas est tout à fait signe de quelque chose qu'on va chercher, qu'apparemment on ne voit pas directement. Et puis cette bouche, voilà, cette bouche légèrement entrouverte. Là, on est dans le domaine de la sensualité la plus pure. Et donc, il s'agit, comme toujours dans l'art religieux, de limiter cette sensualité. Donc, au Moyen-Âge, on est très rigoureux parce que les lèvres et la bouche n'apparaissent jamais, dans la mesure où ça, c'est quand même trop, trop érotique et trop corporel. Mais au 19e, non. Effectivement, ce rouge à lèvres peut être rajouté. Enfin, non, il n'est pas rajouté, parce que quand on regarde bien les statues saint-sulpiciennes, il y a effectivement ces qualités de rouge qui, effectivement, évoquent cette ouverture très discrète. Voilà. On est dans un entre-deux. Alors, elle fait l'expérience, elle fait l'expérience comme ça avec malheureusement des personnages que je connais moins bien que Marion Cotillard. Ici, Anouk le père. Après, il y a beaucoup de mannequins ou de stars d'origine un peu est-européenne, Russie, Pologne, etc. Elle va chercher évidemment beaucoup les yeux bleus. Alors, les yeux bleus ont une qualité de transparence, une qualité évidemment de non-opacité. Voilà que quand on regarde les yeux bleus, je ne vais pas faire l'apologie ici des yeux bleus parce que ce serait trop personnel, mais les yeux bleus permettent évidemment de rentrer un peu plus à l'intérieur. Alors là encore, les deux visages, l'un à côté de l'autre, c'est une bonne initiative parce que précisément on a besoin aujourd'hui, du point de vue de la conservation des objets d'art, on a un besoin urgent de bien considérer ce patrimoine du 19e, parce que le patrimoine du 19e, on est un peu fâché, enfin du moins, comme toujours, les fils n'aiment pas trop, les enfants n'aiment pas trop l'héritage de leurs parents, et donc voilà qu'on a beaucoup massacré ce patrimoine du 19e, les peintures, les statues, les décorations des églises, on a modernisé, et les conservateurs, les architectes des monuments historiques sont très, très fâchés, évidemment, parce que beaucoup d'hôtels ont disparu, beaucoup de statues ont disparu, des lustres ont disparu, etc. Vraiment, c'est tout à fait étonnant. On a la photo, et c'est pas vieux, c'est en 60, en 65, des choses comme ça, ça a disparu. Donc, aujourd'hui, il faut voilà que ce patrimoine arrive un peu fatigué. Je pense par exemple à tous les vitraux de la Treille, enfin la partie du 19e de la Treille, les vitraux du néo-gothique. Alors on les dit néo-gothique, néo-roman, c'est une façon aussi un peu de les mépriser. Et donc il va falloir les restaurer. Et on ne va pas restaurer des choses qu'on n'aime pas, évidemment. Donc il faut, si on ne veut pas subir une critique de nos futurs descendants qui vont dire qu'on a été des sauvages de jeter à la poubelle des choses qui peut-être méritent considération, mais comme nos parents aussi ont jeté à la poubelle des choses que nous, aujourd'hui, on aimerait bien avoir, peut-être que ce travail ici de Sophie Langor va nous aider à reconsidérer l'héritage du 19e et peut-être aussi de reconsidérer le travail artistique des maquilleurs, des stars, des revues de mode qui sont très, très nombreuses, et de ce papier glacé qui nous rend des visages tout à fait d'une certaine perfection. Mais d'une perfection, effectivement, qui n'est pas crue. Je veux dire qu'il y a une petite différence, comme toujours, entre une incitation à aimer ces visages et à sentir une sensualité, à sentir peut-être un peu d'érotisme, et évidemment tout ce qui serait beaucoup plus plat du côté de la pornographie ou du côté de la publicité commerciale, qui évidemment souvent rabaisse les choses vers le bas. Et il s'agit ici de faire croire, peut-être que c'est un des gros problèmes de l'art qui peut-être va nous tromper, peut-être nous fait illusion. Platon était très en colère contre les artistes parce qu'il dit que les artistes nous montrent des choses qui ne sont pas dans la réalité et donc ils nous trompent. Et la religion, on va dire aussi qu'elle nous trompe parce qu'elle nous montre des choses qui ne sont pas perceptibles. Mais il y a tout ce travail pour effectivement distinguer l'être dans le caractère charnel, cette peau, cette carnation, c'est les cils, les lèvres, etc., d'une certaine première réalité par rapport à une deuxième réalité. L'image, à vrai dire, parle beaucoup mieux que moi, parce que moi, j'ai du mal à exprimer cette deuxième réalité qui est tellement mystérieuse, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui émane du visage de droite, comme d'ailleurs du visage de gauche, qui, effectivement, n'est pas le résultat d'une simple reproduction de notre première réalité. Et bien sûr qu'encore une fois, il y a tout un travail de retouche, il y a tout un travail pour apprêter ces visages et leur donner justement cette qualité de mystère, cette qualité de l'au-delà. Alors voilà, on peut les voir les unes après les autres. Et donc, il y a des documents de Sophia Langar. Vous n'avez exposé peut-être qu'une, mais on pourrait... Alors, il y a quand même toute cette série. Alors voilà, c'est assez drôle à faire défiler parce que il y a une sorte d'incantation, de litanie. Alors, c'est un peu une litanie des saints ou une litanie des stars, comme vous voulez, qui se décline comme ça, de montage en montage, avec finalement toujours cette idée qu'à gauche, c'est une vraie statue et à droite, une vraie star. Voilà. Donc, on est dans une confrontation assez étonnante, d'ailleurs, entre le personnage historique qui est à droite et puis le pseudo-personnage historique qui est à gauche, qui est donc la statue, qui procède déjà d'une transformation, évidemment, de l'être qui ne va pas être la femme du 19e qui apparaît telle qu'elle, mais qui est totalement transformée, qui est totalement préparée. Voilà. Il y a dans ce travail de Sophie Langor une véritable... Alors, elle a fait une véritable mystification, ou une introduction, si on veut, plutôt au mystère. Alors, elle a fait la même chose à partir d'une statue de Saint Matthieu, qui doit être, alors, si j'ai bien compris, au Muba. Non, enfin, une autre statue, mais elle n'est pas là, en tout cas, celle-là. Il y en a d'autres qui ressemblent. Mais voilà, donc les belles statues baroques du grand siècle, qui précisément... sont toujours étonnantes. Il y a eu une exposition au Musée des Beaux-Arts, il y a eu une exposition tout à fait étonnante sur les portraits des saints et des patriarches, donc tous ces du 17e, 18e siècle, qui, bon, il suffit de penser à Rembrandt et à tous ces portraits de Rembrandt, qui dénotent évidemment une intériorité très forte. C'est tout l'art du portrait, y compris la photographie y concourt, évidemment. L'art du portrait, c'est bien de montrer l'être pour qu'on le reconnaisse, mais en même temps, l'être tel que lui-même peut-être ne se reconnaît pas tout à fait. D'ailleurs, on pouvait faire cette expérience tout à fait étonnante de choisir parmi des images où vous êtes représenté, de choisir, vous, l'image qui vous semble le mieux correspondre à ce que vous êtes. Et puis vous demandez à votre voisin ou à l'être que vous aimez bien de choisir l'image aussi qui semble le mieux correspondre à ce que vous êtes, vous serez étonné de la différence. Parce que moi, je choisis une image parce que je me veux d'une certaine manière, je me vois d'une certaine manière, et la personne à côté de moi me voit d'une autre manière. Alors c'est le portrait, justement, doit le portrait photographique ou le portrait de peinture doit révéler cette part intérieure, cette part mystérieuse de l'être qui fait que l'être n'est pas seulement ce qu'on en voit, comme je le disais tout à l'heure. Alors, bien sûr qu'on retrouve les yeux, mais il y a aussi tout un travail sur le drapé, il y a un travail ici sur la barbe, et donc elle a été chercher un magnifique mannequin grec, Alexandre, j'ai noté son nom quelque part, qui est un homme, voilà, avec une virilité évidemment tout à fait intéressante, quelques tatouages aussi. Bon, tout ça fait partie de la transformation du corps aujourd'hui. La peau est un véritable terrain d'expression où on veut justement écrire à même la peau notre identité peut-être plus mystérieuse. Alors voilà, toujours ces confrontations sont tout à fait étonnantes. Alors il y a un autre, le temps avance, voilà, je ne sais pas si je pourrais parler de tous les artistes, mais j'ai parlé de Lydia Palais, donc ça suffit, mais il y a quand même tous les autres artistes. Alors là, c'est toujours épuisant, une exposition, parce qu'on s'investit sur un, sur deux, sur trois, mais il faut revenir plusieurs fois, et c'est jamais en une seule fois qu'on peut faire le tour de toutes ces créations. Et donc ici, il s'agit du travail sur les reliquaires, donc de nouveau Erika Vori, que j'ai déjà cité, qui fait allusion à tous ces objets qui contiennent des reliques. Alors, vous en avez beaucoup dans l'exposition, je ne les ai pas remis ici, mais vous avez tous en tête ces reliquaires. Alors là, c'est pour la conservation, c'est extrêmement redoutable, parce que c'est très difficile à faire visiter quand on a un musée, un trésor, et qu'on vous ouvre l'armoire blindée et qu'on voit une trentaine de reliquaires avec des petites monstrances, etc. Bon, on est un peu noyé sous l'ampleur des choses à voir, et c'est très, très méticuleux, c'est un travail d'orfèvrerie qui est merveilleux. Ça pose un énorme problème pour savoir si ces objets doivent être désacralisés ou pas désacralisés. Est-ce qu'on expose, je sais pas où vous en êtes, est-ce qu'on expose un reliquaire avec les reliques qui sont à l'intérieur, ou est-ce qu'on les enlève? Alors, on peut les enlever, dans ce cas-là, le reliquaire, de mon point de vue, n'a plus de valeur parce que, effectivement, tout est dans ce jeu entre la relique qui en elle-même est assez insignifiante, un bout d'os, un cheveu, un bout de tissu. Enfin, c'est vraiment à la limite de la trivialité. D'ailleurs, effectivement, c'est toute la question de l'authenticité des reliques. Vous faites allusion évidemment à la critique de Calvin qui trouve qu'on pourrait faire une trentaine de têtes de Saint Jean-Baptiste et que Saint Jean-Baptiste avait au moins 70 doigts. Bon, donc évidemment, il y a eu un trafic très très grave de ces reliques. Mais c'est pas une relique. Elle est authentique dans la mesure où elle suggère effectivement cette réalité d'une personne qui n'est plus là, mais qui va quand même être présente par ce signe corporel, tangible, mais en général assez ténu, même si on a tout le corps, ça ne reste quand même qu'un squelette, que des ossements. On est quand même très très loin de la réalité corporelle à laquelle nous sommes habitués. Alors, donc Erika va... d'une façon très poétique, là encore, pareil, va broder, si je peux dire, sur ce thème des reliques en disant, ben voilà, moi, mes reliques, c'est un coquillage, c'est une petite branche que j'ai ramassée sur la plage, ce sont des glands qui sont tombés d'un arbre. On est tous pareils, on ramasse tous à un moment donné un caillou parce qu'il est plus beau que les autres, parce que ça nous fait un souvenir, on ramasse des arbres qui ont été travaillés par la mer, etc. Et nous avons tous une sorte de reliquaire chez nous avec des objets qu'on conserve comme ça, parce que ça vient des grands-parents, parce que ça vient d'ailleurs, parce que c'est un souvenir d'un voyage, parce que c'est effectivement... alors, c'est des cheveux, les cheveux de nos enfants, bon, ça, c'est vrai. Mais ça peut être aussi, effectivement, quelque chose qu'on a ramené d'un pays lointain. Voilà, c'est très ténu, mais voilà que la mise en forme... La mise en forme va être spectaculaire et va être très soignée. Et donc ici, une sorte de sac, une sorte d'enchâssement pour quelque chose qui en soi n'est pas précieux, mais qui le devient. Et donc il y a toute une dynamique là, de la transformation de la réalité tangible de l'objet, c'est presque rien, mais à cause de la dévotion, à cause de ce que ça représente précisément, et la représentation n'est pas dans l'objet, la représentation est au-delà de l'objet, eh bien je vais créer là encore comme une sorte d'encadrement, d'enchâssement, une sorte de mandorle, comme une sorte d'aura autour de cet objet qui du coup rayonne, qui, du coup, a une valeur précieuse et qui méritera, de ma part, les plus grands soins. Faut-il, alors c'est toujours très intéressant de voir dans l'histoire quand les Vandales de tout poil arrivent quelque part, donc on saccage tout ce qui est précieux. Et c'est toujours intéressant de voir, à ce moment-là, les fidèles, souvent ont le réflexe de laisser le reliquaire doré aux Vandales et de garder la chose qui n'a pas de valeur a priori pour évidemment refaire après leur passage un nouveau reliquaire. Et là-dessus, les fidèles ne se trompent pas. Évidemment, on pourrait être tenté de garder le poids d'or, le kilo d'or ou les kilos d'or qui sont utilisés pour cette œuvre précieuse, mais on a soin évidemment de garder l'âme de l'objet. On pourrait là encore utiliser, j'ai dit matière, immatérialité, visible, invisibilité, on pourrait aussi parler du corps et de l'âme. Il y a eu une exposition très intéressante, pas très loin de Dunkerque, sur le visage, sur l'expression l'âme du corps. Voilà, ce sera l'âme, c'est une réalité aussi, alors pas facile à manipuler d'un point de vue philosophique, mais qui est quand même, qui veut dire qu'effectivement il y a le corps et quelque chose d'autre. Voilà, alors donc ici, ces fameux, voilà, les trois glands à droite, un morceau de bois, je ne sais plus quoi au-dessus. Ça, on pourrait presque mettre ça en relation, par exemple, avec des tableaux de Chardin, quand Chardin nous fait des natures mortes, des raisins, une figue ouverte. Bon, c'est très, très insignifiant en soi. Et puis, tout d'un coup, ça prend une valeur parce que dans le raisin, dans le grain de raisin, il y a une luminosité, il y a une intériorité, ça vibre, c'est quelque chose qui devient à ce moment-là quasiment transcendant. Et l'artiste, évidemment, est précieux, comme d'ailleurs le poète est précieux, comme sans doute le guide aujourd'hui, que je considère un peu comme metteur en scène, celui qui va faire vivre ces objets dans une certaine ritualité, dans une certaine célébration, eh bien, on a besoin, évidemment, de trouver des formes pour exprimer cette tension donc entre le matériel et l'immatériel, entre l'humain et le divin. Voilà, par exemple, ici, cette main qui est extraordinairement travaillée, très, très diaphane, voilà, avec une, comme si on voyait un peu, par transparence, par filigrane, l'intériorité, ou encore ici, cette façon de rajouter quelque chose sur notre statue. Voilà, donc je vous invite évidemment à regarder tout. Il y a ce travail tout à fait intéressant d'Hervé Le Sieur, qu'on a déjà beaucoup cité et qui est très présent dans cette exposition, avec ce retable, ce polyptyque plutôt, polyptyque. Donc là, on a la chance de le voir. Et puis, moi, je l'ai touché, on peut le fermer. Oui. Non, il ne faut pas le toucher, c'est embêtant, parce que c'est ça qui est astucieux dans les polyptyques, c'est toute la dynamique qu'il y a entre la fermeture et l'ouverture. Alors, normalement, un polyptyque est fermé. C'est un peu comme les portes. Une porte est ouverte ou fermée. Mais normalement, c'est fermé. Et quand on l'ouvre, alors c'est la fête. Alors, à ce moment-là, on a un spectacle qui se déploie sous les yeux. Alors ici, l'ouverture, vous voyez qu'il y a beaucoup de charnières. L'ouverture est très, très lente, très compliquée. Ça peut s'ouvrir panneau par panneau. Mais évidemment, une grande part de la fascination du polyptyque procède de son fonctionnement. Je pense au polyptyque de Van Eyck, à l'Agneau mystique, à Gand, qui est exposé derrière une vitrine, évidemment, pas question non plus de le toucher, mais il se trouve qu'il y a une copie, grandeur réelle, qui a été faite à un moment donné, d'ailleurs, qui est installée, encore, c'est encore mieux, à l'endroit même où le polyptyque d'origine était installé. Donc on a tous les phénomènes de l'éclairage qui vient de droite et qui rentre un peu sur le polyptyque. Alors là, personne ne le surveille, évidemment, c'est une copie. Et aujourd'hui, c'est même des photos, je crois, qui ont remplacé les peintures initiales. Bon, alors, on va dire que ça n'a pas beaucoup de valeur, mais je peux le fermer, l'ouvrir. Et alors, on a ce déploiement du mystère intérieur, donc tout le rapport entre l'extériorité, l'intériorité, entre, on avait déjà aussi, avec Lydia Palais aussi, le travail sur le polyptyque du manga, là, qui relève aussi de cette dynamique, la fermeture, l'ouverture, la non-vision, la vision. Alors, on découvre à ce moment-là que la vraie vision nécessite une ouverture et la vraie vision va se trouver à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur au premier regard. Elle suppose effectivement une cérémonie parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas ouvrir n'importe quand, n'importe comment le retable. Il y a une démarche à ce moment-là assez ritualisée. Et donc, la mise en scène, qui vous avez d'ailleurs, c'est une des parties du catalogue, les rites, la mise en scène est tout à fait fondamentale pour que l'objet fonctionne dans sa plénitude. Alors, c'est rare, évidemment, les objets qui peuvent montrer comme ça l'envers et l'endroit, l'intérieur et l'extérieur, le côté, le but mystérieux et puis l'apparence initiale. Et là, le travail, alors, s'est fait avec des fonderies, un certain nombre d'objets récupérés en bois ou en fonte, qui sont eux-mêmes d'ailleurs à l'intérieur un peu comme des seaux en creux ou en relief. On a souvent des creux qui correspondent en fait à des coulages de formes en relief. Voilà, donc un travail tout à fait extraordinaire, de récupération pour une bonne part, mais en même temps de montage extrêmement suggestif. Voilà, et puis encore, voilà, Élise Vulvéric avec ce repas. Alors, je peux terminer sur cette image. Elle dit, voilà, c'est un repas. Bon, si vous ne voulez pas avoir un repas, vous voyez ce que vous voulez. Il y a une grande liberté. Mais c'est vrai que cette eau-forte avec les feuilles d'or me suggère beaucoup une scène, bien qu'il y ait sans doute plus de personnages que de coutume pour le repas à laquelle je fais allusion. Mais visiblement, ce repas qui est là encore une activité banale, quelque chose du quotidien, quelque chose de très, donc de pas sacré a priori, de profane, eh bien, va être sacralisé, va être sublimé, va être magnifié par l'utilisation des matériaux, bien sûr, par la composition de l'ensemble, par ce jeu très subtil ici entre les traits noirs et les traits de lumière, les traits noirs qui pourraient obscurcir, mais qui, heureusement, il y a tous ces traits dorés qui vont irradier l'ensemble du tableau. Et voilà ce que s'opère la magie que vous avez voulu développer dans l'exposition, qui est précisément à partir de réalités tout à fait physiques, tout à fait appréhendables, que l'on peut donc toucher, concevoir intellectuellement, eh bien, on arrive dans un monde qui est bien au-delà de la sensation pure, qui est dans cette perception d'une dualité qui fait que ce que je vois cohabite, coexiste avec une aura, avec un monde autre, un monde plutôt mystérieux. Mais il se trouve évidemment que c'est ce monde mystérieux qui me réjouit, en tout cas qui me procure énormément de joie profonde et en même temps qui permet cette communication, puisque évidemment si on montre un repas trop banal, on ne va pas attirer les foules, mais là il y a toute une aura dans l'exposition qui visiblement fonctionne bien puisque l'exposition rencontre un beau succès et qu'il faut évidemment en parler parce que ce n'est pas tous les jours qu'une exposition artistique affiche comme ça son rapport au sacré. Pour moi, le rapport au sacré est partout dans l'œuvre d'art, mais il est souvent implicite. Ici, vous avez eu le courage de le rendre explicite et finalement de nous expliquer, de nous rendre perceptible cette démarche du sacré dans le profane, du sacré, au milieu, encore une fois, de la cité, au milieu de la place publique, qui est donc Tourcoing, mais ça rayonne bien au-delà de Tourcoing, parce que j'espère qu'on va beaucoup parler de cette exposition et de votre travail, qui est tout à fait remarquable. Voilà, je vous remercie.